Il est 1h du matin à Tel Aviv, 18h à Washington. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde, c'est avec vous mon cher Mathis Slimano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir mon cher Zéphirin. Zéphirin Kouadio pour l'actualité africaine. Dans le reste du monde, la visite de Benjamin Netanyahou qui se poursuit aux États-Unis. Ce lundi, il a rencontré l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient avant d'être reçu demain à la Maison-Blanche au programme discussion avec Donald Trump sur la deuxième phase de la trêve à Gaza. Le Hamas, lui, s'est dit prêt à entamer les négociations. Donald Trump qui suspend pour un mois les tarifs douaniers sur les produits mexicains et canadiens. Il devait entrer en vigueur ce mardi. L'Union européenne se sait elle aussi menacée. Explication à suivre. Également à la une, les présidents congolais et rwandais attendus ce week-end à un sommet extraordinaire en Tanzanie. Sur la table, la situation dans l'est de la RDC où Goma est en grande partie sous contrôle du Rwanda. Et puis en France, le Premier ministre a dégainé ses premiers 49-3. Benjamin Netanyahou est à Washington depuis ce dimanche. Le Premier ministre israélien doit rencontrer demain le président américain. Il sera le premier dirigeant étranger reçu officiellement à la Maison-Blanche par Donald Trump depuis son investiture. Une rencontre entre deux hommes qui s'apprécient et qui se connaissent bien, Devin Thompson. Ils doivent parler de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.
Durant cette visite de travail de Benjamin Netanyahou, la Maison-Blanche se fixe trois objectifs. D'abord, établir les critères pour la libération des derniers otages toujours retenus par le Hamas, pour ensuite organiser le retrait militaire des troupes israéliennes et enfin prévenir le retour de la guerre à Gaza. Aujourd'hui à Washington, le Premier ministre israélien s'entretient avec l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient, l'omniprésent Steve Witkoff. Demain, tout un symbole, Benjamin Netanyahou sera le premier leader étranger reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump depuis son investiture, lui qui ne parlait quasiment plus avec son prédécesseur Joe Biden. L'autre enjeu crucial de cette visite, c'est celui de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite, interrompue tout net par l'attaque du 7 octobre. Sur ce dossier, Trump veut obtenir des concessions de Netanyahou, car avant d'accepter cette reprise, Riyad demande une solution viable pour les Palestiniens. Trump a donc un plan pour cela, un plan qu'il souhaite présenter à Netanyahou dès demain dans le bureau ovale. David Thompson, Miami RFI.
De son côté, le Hamas s'est dit prêt à commencer les négociations de la deuxième phase de la trêve avec Israël. On en vient à ce coup de théâtre. Donald Trump suspend pour un mois les tarifs douaniers imposés au Canada. Il devait entrer en vigueur ce mardi. 25% sur tous les produits canadiens. Mais les négociations ont été satisfaisantes, estime le président américain, qui s'est entretenu directement avec Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Plus tôt dans la journée, c'est le Mexique qui a annoncé la suspension pour un mois également des tarifs douaniers américains. En échange, Mexico va déployer 10 000 soldats à la frontière entre les deux pays. Et puis l'Union européenne se sait elle aussi menacée. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a lancé un avertissement aux États-Unis.
Nous avons écouté attentivement ces paroles et bien sûr nous nous préparons également de notre côté. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales. Si les États-Unis et l'UE entament une guerre commerciale, c'est la Chine qui va rire de son côté. Nous sommes très interdépendants. Nous avons besoin de l'Amérique et l'Amérique a également besoin de nous. Les droits de douane augmentent les coûts. Ils ne sont pas bons pour l'emploi. Ils ne sont pas bons non plus pour les consommateurs.
Kaya Kallas, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Les tarifs douaniers de 10% sur les produits chinois doivent toujours entrer en vigueur ce mardi. Mais Donald Trump a laissé entendre que des discussions auront lieu très prochainement avec Pékin. Enfin, sur le dossier de la guerre en Ukraine, le business avant tout pour Donald Trump. Le président américain souhaite obtenir des garanties sur des terres rares présentes en Ukraine. Il s'agit de matériaux utilisés dans les appareils électroniques en contrepartie de l'aide américaine à Kiev. Les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda sont tous les deux attendus ce week-end en Tanzanie, à l'occasion d'un sommet extraordinaire au sujet de la situation dans l'est de la RDC, où l'armée rwandaise soutient les hommes du M23. Les autorités congolaises ont reconnu que la ville de Goma est en grande partie sous contrôle du Rwanda. Ce lundi, Kinshasa a exprimé sa gratitude envers l'Afrique du Sud, soutien des FARDC. Mais sur place, au contraire, les partis politiques sud-africains continuent de critiquer le gouvernement pour son déploiement en RDC. 14 soldats de la nation arc-en-ciel, membres des troupes de la SADC et de la MONUSCO, sont morts au combat depuis le début de l'offensive. Le président Cyril Ramaphosa a donc profité de sa lettre hebdomadaire à la nation pour justifier la présence sud-africaine dans l'est du pays, Claire Bargelès.
Cyril Ramaphosa a tenu à répondre ce matin à ceux qui affirment que les troupes sud-africaines ne devraient pas se trouver en RDC. La violence et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains, écrit-il, ajoutant que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Lors d'échanges interposés sur les réseaux sociaux la semaine dernière, la tension était rapidement montée entre Pretoria et Kigali, jusqu'à un échange téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui a permis de faire descendre la pression. Le chef de l'État sud-africain a toutefois tenu à préciser dans sa lettre qu'il relaie l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à exhorter le M23 à se retirer des territoires occupés et les forces externes à se retirer du pays. Quant à l'avenir des forces de la SADC, en très mauvaise posture sur place, Cyril Ramaphosa a assuré que tout serait fait pour que les soldats soient bien équipés et soutenus et que la mission ne pourrait ralentir que lorsqu'un cessez-le-feu sera mis en place.
Claire Bargelès. Malgré l'appel au calme lancé par les autorités grecques, la situation est toujours très tendue à Santorin. Des milliers d'habitants ont déjà quitté l'île par avion et par ferry. Santorin, haut lieu du tourisme en Grèce, est touché par une activité sismique inhabituelle. Plus de 200 secousses en quelques jours. Jour de congrès ce lundi à Berlin pour la CDU. Objectif pour le parti conservateur allemand, adopter un programme d'action et resserrer les rangs à 3 semaines d'élections législatives cruciales. Et après les polémiques de ces derniers jours, polémiques sur fond de rapprochement avec l'extrême droite allemande, Pascal Thibault.
Nous allons gagner cette élection avec un très bon résultat. Friedrich Merz se présente déjà comme le futur chancelier. Un sondage ce lundi crédite les chrétiens démocrates de 30% des voix, soit 2 fois plus que le SPD du sortant Olaf Scholz. Le Congrès adopte à l'unanimité un paquet de 15 mesures destinées à être mises en place après les élections. Un programme économique et social d'inspiration libérale, avec baisse d'impôts notamment. D'autres propositions visent à réduire les flux migratoires et ont été présentées la semaine dernière au Parlement. Friedrich Merz estime, et les sondages lui donnent raison, que les Allemands veulent des mesures plus fermes. Mais pas forcément en les faisant adopter avec l'extrême droite, comme cela s'est produit la semaine dernière, avec une motion au Bundestag qui a remis en cause le cordon sanitaire autour de l'AFD. Au Congrès, Friedrich Merz, largement critiqué, à commencer par des milliers de manifestants ces derniers jours, veut mettre les choses au clair.
Nous ne coopérerons pas avec l'alternative pour l'Allemagne, jamais. L'AFD est contre la relation transatlantique, elle est contre l'euro, elle est contre l'OTAN. Il n'y a ni coopération, ni tolérance, ni gouvernement minoritaire. L'AFD est notre adversaire central dans cette campagne.
Délégués du Congrès se lèvent et applaudissent à tout rompre leur président après cette mise au point, mais l'image de la CDU reste entachée. Au Congrès de la CDU, aucune critique ne se fait entendre. Les électeurs trancheront le 23 février. Si des comptes sont à régler, ils le sauront ensuite. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et pendant ce temps, en France, un sursis semble se profiler pour le gouvernement, malgré les 2-49-3 annoncés par François Bayrou et 2 motions de censure qui en découlent. Le Parti Socialiste, qui avait en main une partie de l'avenir du gouvernement, a annoncé qu'il ne votera pas la censure. Du côté du Rassemblement National, on continue d'entretenir le suspense. Sa décision sera connue mercredi, au moment de l'examen de la motion de censure. Le député RN Julien Odoul.
La censure est quelque chose de sérieux, c'est pas un fantasme, c'est pas un jouet, et donc nous devons en regarder ça de près. Une position sera arbitrée par Marine Le Pen, Jordan Bardella, après concertation du groupe Rassemblement National. Nous, contrairement à certains, notamment à gauche et à extrême gauche, on n'est pas des excités, on n'a pas la censure compulsive ou précoce. Nous, on regarde uniquement selon l'intérêt de la France et des Français. Donc très clairement, c'est un mauvais budget, ça nous le savons. N'attendions pas de miracle de M. Bayrou. Après, la discussion, c'est de savoir est-ce qu'il y a plus de conséquences fâcheuses à censurer qu'à laisser passer ce budget. C'est un arbitrage que nous allons prendre.
Le député du Rassemblement National, Julien Odoul, avec Victorien Villaume à l'Assemblée nationale. C'est une forme de soulagement, estime l'avocate d'Adèle Haenel. Ce lundi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, le réalisateur français Christophe Ruggia. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'actrice alors qu'elle avait une dizaine d'années. Christophe Ruggia a annoncé faire appel du jugement, lui qui a toujours nié les faits. RFI, il est presque minuit 10 à Paris, une heure de moins en temps universel.